quelques vérités qui ont rapport au repas du Seigneur. Vous savez qu'on s'en va dans le mois d'avril où le thème c'est Christ notre Pâque. Et on a vu la dernière fois Christ notre Pâque dans la pureté de l'Église. On avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, la notion de levain dans le Nouveau Testament. Et la notion de levain n'est pas juste dans le Nouveau Testament, mais pour restreindre un peu notre étude, on s'était juste arrêté aux références du Nouveau Testament. Puis là, on va voir Christ notre Pâque dans la sanctification de l'Église. On va lire Hébreux 10. J'étudie la référence. Non? Bon, ben là, je le dis. Non, j'ai vraiment besoin d'aide, tu sais.
Un petit café avec ça.
Mais je pense que, vu que j'ai pas prêché. Ouais, c'est ça. Non, mais vu que j'ai pas prêché le matin, je pense. Ou c'est peut-être contagieux, tu dis que tu étais déflaboxé, toi, avec. C'est peut-être contagieux, le déflaboxage mental. Non, puis j'étais assez bon là-dedans, là. Là-dessus, je m'arrange même tout seul, même sans l'aide de quelqu'un. Je suis capable de me mêler assez raide, merci, là, assez comme il faut. Donc, Hébreux 10, versets 5 à 10, ça va être notre texte de départ. On va aller un peu plus loin dans le texte avec le message, mais j'aimerais juste qu'on lise ces versets pour s'introduire. Hébreux 10, verset 5. Et ça commence avec un « c'est pourquoi ». Je vais vous dire pourquoi ça dit « c'est pourquoi » pendant le message, mais je veux qu'on commence juste là parce que c'est là-dessus que je veux attirer notre attention pour commencer. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. J'aimerais qu'on continue, dans le fond, parce qu'on a vu, aujourd'hui, on voit un peu la continuité de ce qu'on a vu dans le dernier message du repas du Seigneur, comme je le disais sur Christ notre Pâque dans la pureté de l'Église, hein, comment toute l'image du levain, et vous savez que la Pâque était précédée par quelle fête? La Pâque des pains sans levain, et donc une image de la pureté ici. Mais là, on va voir vraiment la Pâque en tant que telle, Christ qui s'est offert par la volonté de Dieu. Et c'est notre sanctification, on va considérer ça ensemble. J'aimerais juste dire en introduction brièvement que le message sur Christ, notre Pâque dans la sanctification de l'Église, complète celui sur la purification de l'Église. Parce que vous savez, la purification de l'Église, c'est ça que je disais ce matin, ça fait un peu suite. La pureté, c'est pas une fin en soi, je veux dire, oh, je suis pur, là. Non, c'est dans le but de la sanctification. C'est dans le but d'être mis à part. Dieu nous a purifiés pour nous placer en Christ, pour nous utiliser pour son œuvre, pour sa gloire, pour ses fins. OK? Donc, la pureté de l'Église amène à la sanctification de l'Église, l'œuvre de sanctification de Christ par son offrande, l'offrande de son corps. Et donc, c'est le moyen par lequel on arrive à cette sanctification, la pureté de l'Église. C'est pour ça que les deux vont à la suite de l'autre. Et j'aimerais simplement qu'on voit dans le texte qu'on considère cet après-midi deux éléments clés par lesquels Christ notre Pâque est la sanctification de l'Église. D'abord, dans les versets 5 à 9, et on les a lus, on voit le premier élément, c'est la solution divine face à la lacune de la sanctification. J'ai dit que j'allais revenir au verset 1 à 4. Si on les lit, on voit qu'il y avait une lacune. En effet, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Voyez-vous, il y avait une lacune. Ça tombait à court. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Et bon, certains vont dire, ça réfère-tu à la Pâque, au jour des expiations? peut-être même aux deux. Il y avait beaucoup de festivals nationaux comme ça en Israël qui étaient... ben en fait, les sacrifices, il y en avait constamment, mais ici, ça parle vraiment de chaque année. Mais l'idée, c'est que ça nous montre qu'il y avait une lacune. C'est pour ça que ça dit au verset 5, « C'est pourquoi Christ est entré dans le monde. » Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Pourquoi? Parce que c'était insuffisant. Il fallait tout le temps recommencer. Il aurait tout le temps fallu. C'est pas comme si Jésus est venu pour offrir des sacrifices d'animaux, là, comme on voit là, avec des boucs ou des taureaux. Mais ça dit, mais tu m'as formé un corps. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la lacune, l'imperfection de l'ancienne alliance. Dans les versets 1 à 4, toujours à recommencer, dans un état d'imperfection, tous ces sacrifices n'amenaient rien à la perfection. Mais on voit la solution divine qui est dans le caractère même du Dieu trinitaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit dans les versets 5 à 9? C'est un dialogue divin entre le Père et le Fils par rapport à l'œuvre que le Fils a accomplie par le Saint-Esprit. On voit la Trinité parce que le Père a envoyé le Fils pour offrir sa vie en victime expiatoire. Et on voit au chapitre 9, verset 14, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, on voit l'œuvre du Dieu trinitaire, mais on voit spécialement dans les versets un dialogue entre le Père et le Fils. Hein, parce qu'ici, ça dit, tu n'as voulu, ici c'est le Fils qui parle au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voyez-vous comment ici le Fils qui s'adresse au Père. Puis c'est sous-entendu ici que la volonté du Père était que le Fils vienne s'offrir. Ce que je veux souligner avec ça, c'est que, bon, pour ceux qui se demandent, là, ici, c'est une citation de l'Ancien Testament. C'est quel chapitre d'Ancien Testament? Un beau passage messianique, le psaume 40. C'est le psaume 40. Ça montre comment, ici, les choses ont été verbalisées, OK? Quant au désir du Père que le Fils soit le sacrifice ultime qui met fin à tous les autres sacrifices. Le sacrifice de Christ est la fin de tous les autres. Ça nous dit au verset 9, « Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. » Donc, Jésus est venu se sacrifier et ça met fin à tous ces sacrifices qui étaient imparfaits. Cette lacune, c'est Christ qui est venu la combler. Et simplement, ce que je veux juste souligner ici, avec ce passage qui nous montre ce rapport entre le Père et le Fils par rapport au sacrifice que le Fils a offert selon la volonté parfaite du Père, on voit que cette relation divine, ce dialogue divin était porteur de vie, était porteur de victoire, de réconciliation, de paix et de joie. Ce qui est ressorti de cette conversation, de ce dialogue, c'est la vie, la victoire, c'est le sacrifice. Il était d'accord, puis le Fils est venu accomplir la volonté parfaite. C'est ça qu'il dit, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Et le fruit de ça, ça a été toutes ces bonnes choses constructives. Belle et bonne. Est-ce que tu peux dire la même chose de tes dialogues et de tes relations avec les autres? Est-ce qu'ils sont porteurs de vie, de victoire, de réconciliation, de paix et de joie? Et là-dessus, je pense que c'est bon de se sonder à la lumière des Écritures. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que je suis en train de parler le contraste entre la sagesse d'en haut versus celle d'en bas? Est-ce que la sagesse qui t'anime est celle qui est d'en bas, celle qui n'est pas d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, et où est-ce qu'il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions? Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ça, c'est une première chose, mais ensuite, on voit aussi la disposition divine. On voit le Fils, hein, dans ce passage-là, qui a une parfaite soumission, une soumission entière, sans équivoque, sans hésitation, à toute la volonté du Père. Ça a été mentionné aussi ce matin. Le Fils est venu faire la volonté parfaite du Père en toute chose. Et là aussi, on peut se demander, est-ce que ma disposition, évidemment, le barème, c'est Christ, je me compare à un autre, je peux toujours me penser bon ou penser que je ne suis pas bon. Mais à la lumière de la disposition de Christ, est-ce que je peux voir que je vois mon Père comme celui qui me demande toujours ce qui est bon, ce qui est bien et que je veux, je dis, je viens, je veux faire ta volonté, ô Dieu. Et là-dessus, je vous l'amène la citation comme dans le psaume 40. Parce que des fois, il y a des subtilités entre ce qu'on voit dans l'Ancien Testament puis le Nouveau. Je vous le lis. Ça dit, verset 9, psaume 40, verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Évidemment, ça réfère à Christ, mais vous savez que Dieu aussi a mis sa loi dans nos cœurs. Est-ce qu'on veut faire sa volonté? Est-ce que c'est notre plaisir? Ou peut-être que, pour nous, selon, dépendamment, quand les circonstances sont favorables, ok, oui, je veux bien faire ta volonté, mais quand il y a des problèmes, quand il y a des personnes qui achoppent, on parlait d'enfants, des fois ça peut être un collègue de travail, époux, épouse, là c'est plus dur de se soumettre à la volonté de Dieu, d'accepter de souffrir pour le bien et même pour le péché des autres. Bonne réflexion, n'est-ce pas? Faire toute la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est dans les choses faciles, les choses agréables, et dans les choses aussi pénibles et difficiles. L'élément ici de la solution divine est crucial par rapport à notre lacune. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui, incarne la perfection. Jésus a parfaitement fait la volonté de Dieu. Ce qu'on sait trop douloureusement que personne ici, nous ne pouvons faire. Mais en Jésus-Christ et par lui, nous pouvons aussi accomplir la volonté de Dieu. On va référer tantôt à ce verset-là, mais je vous dis déjà d'avance un verset auquel je vais faire référence tantôt. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. Dieu nous rend capables par sa grâce, à cause de l'esprit qu'il a fait habiter dans ses enfants. On peut, non seulement on prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais Dieu produit en nous le vouloir et le faire. C'est possible parce que Dieu nous en rend capables. Chose qui était impossible avant quand nous étions morts dans nos offenses et nos péchés. Donc ça, c'est la solution divine face à la lacune. Dieu est venu pour régler le problème. Il y a ce dialogue divin pour venir accomplir la volonté de Dieu et cette disposition face à la volonté de Dieu que Dieu reproduit dans ses enfants. Mais le deuxième élément que j'aimerais qu'on considère, et c'est à partir du verset 10 jusqu'au verset 18, c'est le résultat de cette solution divine pour notre sanctification. D'abord, regardez les versets 10 à 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, ça parlait de chaque année tantôt, mais aussi c'est ça, il y avait des sacrifices qui étaient faits à chaque jour, et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, oh quel beau verset, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Wow! Le sacrifice de Jésus-Christ est unique. Il a été fait une fois pour toutes. Et il a produit une sanctification parfaite, une fois pour toutes. Remarquez que dans les versets 10 et 14, ça dit « Nous sommes sanctifiés ». Ça nous dit au verset 10, ça dit « Nous sommes sanctifiés ». Verset 14, ça dit « Il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés ». Ça parle de la sanctification comme quelque chose d'accompli, de complet, qui est déjà dont nous sommes déjà 100% les bénéficiaires. Ça, c'est le côté Romains 8.1 de notre sanctification. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand on est sauvé, on est mis à part, on est dans le bien-aimé, il y a ce côté-là de la sanctification qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. On est parfait parce qu'on est sanctifié en vertu de l'œuvre de Christ. C'est notre position en Jésus-Christ. OK? Mais regardez maintenant versets 15 et 16. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Ça, c'est le côté pratique dans la vie de tous les jours. Alors qu'il y a les mensonges dans le monde, il y a la tromperie, puis il y a notre propre cœur qui est trompeur, puis tout ça. Ben, ça, c'est le côté Romains 8.2. Où est-ce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché puis de la mort? Le péché est là, il nous enveloppe si facilement. Nous sommes dans un monde, on l'a vu ce matin, déchu. On a manqué d'avoir un message très court ce matin. Ça aurait été le message le plus court que j'ai jamais entendu. Ça aurait été une joke plate, par exemple. Ça reste, bon, je pense qu'on serait resté un peu sur notre appétit. Ah, mais gloire à Dieu, on a eu un mets excellent de la parole de Dieu. Mais le côté ici-bas, maintenant, c'est-à-dire Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs. C'est-à-dire que quand on marche avec Dieu, on prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur parce qu'il l'a écrit en dedans. C'est pas juste une chose extérieure qu'on fait parce qu'il faut de façon juste pour les apparences, mais c'est quelque chose qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Des vérités qui, lorsqu'elles sont appropriées, lorsqu'on se les approprie, font leur chemin dans notre vie quotidienne, dans nos comportements de tous les jours. Dieu transforme comme ça de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'affranchit de la loi du péché et de la mort. Et vous savez que notre position et notre pratique sont intimement reliées. Pourquoi? Parce que ma pratique, c'est ma réponse par la foi à ce que je suis en Jésus-Christ. Pourquoi j'agirais comme un saint? Parce que Dieu a fait de moi un saint. Pourquoi j'agirais selon la loi de Dieu? Parce qu'il l'a écrit dans mon cœur. Voyez-vous, un est en réponse à l'autre. Ce que Dieu a fait de nous parfaitement, on vit à la lumière de ça dans le quotidien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Satan veut faire? Il veut nous faire croire, au lieu qu'on mette nos yeux sur ce que Dieu a fait de nous en tant qu'enfant de Dieu, dans toi, là, t'as tout le temps été de même. Toi, t'es quelqu'un qui est de même. Puis là, tu sais, remplissez l'espace à remplir, là. Menteur, trompeur, amer, jamais content, peu importe c'est quoi, OK? Satan veut nous dire, il veut qu'on s'identifie à ça. Mais non, mais quand on voit, oui, ça, c'est mon vieil homme, c'est ce que j'étais avant. Oui, je lutte avec ces choses en tant que c'est le péché qui est là, qui m'enveloppe si facilement, mais c'est plus ce que je suis. Je vis à la lumière de ce que Dieu a fait de moi. Et ça, ça se traduit dans mon quotidien. Donc, c'est vraiment important. Quand je m'approprie, comme je disais, ce que je suis en Jésus-Christ, ça va produire une sanctification pratique qui est à la lumière de ça. Autrement dit, si je m'en vois juste comme quelqu'un qui a des problèmes, qui est un problème, je vais probablement agir avec ces problèmes-là. Mais je me vois comme quelqu'un qui a été gracié par la grâce, qui a connu la grâce de Dieu, qui est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Savez-vous quoi? Je vais aussi agir selon ça. J'agis selon ce que je laisse me définir. Est-ce que Dieu me définit ou mon péché, mon passé me définit? C'est crucial. Et dans sa grâce, Dieu nous a rendus capables. Pas moi qui ai inventé ça, c'est 2 Corinthiens 3, 5 et 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et l'œuvre surnaturelle de Dieu, c'est de nous donner des nouveaux désirs. Nous qui ne prenions plaisir qu'à notre péché, qu'à nous-mêmes, Dieu nous détourne de nous-mêmes, nous donne des désirs pour lui, pour autrui, pour sa gloire. Nous qui ne vivions que pour nous-mêmes, qui étions morts dans nos offenses et nos péchés, il nous a régénérés. Il nous a donné une espérance vivante. Ça, c'est surnaturel. Ce n'est pas dans le cœur humain. Dans le bon petit cœur humain, là. Non, oui. Il n'y a pas de bon petit cœur humain. Notre cœur est tortueux, mais Dieu nous donne un nouveau cœur par sa grâce. Quand il nous sauve, il prend ce cœur de pierre, puis il nous donne un cœur de chair. Amen. Et une autre chose que je veux juste souligner pour terminer avec les versets 17 et 18, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Et ça, on a référé aussi ce matin, quand dans Michée, ça dit « Je vais prendre vos péchés, je vais les tirer dans le fond de la mer. » Puis ça dit dans le psaume 103, « Je vais prendre vos péchés, je vais les éloigner autant, aussi loin que l'Est et de l'Ouest, Occident, Orient puis Occident, ça dit dans nos Bibles. » L'idée, c'est que ça ne peut jamais se rejoindre. Tu sais, notre temps, on va faire le tour de la terre longtemps. C'est une image, c'est juste une figure de style pour dire que, comme on disait ce matin, Dieu ne va pas nous les ramener d'en face. Dieu ne va pas nous dire, ah, t'as vu ce que t'as fait en 1982, le 17. Puis Dieu pourrait nous dire, le 17 août à 17h27 et 8 secondes. Dieu, il peut. Tu sais, je voulais. Tu sais, des fois, ils ont la mémoire de se rappeler ce que les autres ont fait de mal. Je ne veux pas ça avec Dieu parce qu'il va tout le temps gagner puis il haut la main. Là. Heureusement, Dieu, c'est ça qu'il dit. Il dit, je les oublie, je les ramène pas devant toi. Pourquoi? Parce que c'est ça, le pardon des péchés. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus besoin d'offrande. Sinon, il faudrait que j'essaie d'apaiser Dieu. Un peu comme les dieux grecs de l'époque ou les dieux païens de toutes sortes. Romains, tout le monde en avait pour tous les goûts. On essaie de les apaiser. Il n'était jamais trop content. Il était très imprévisible. Mais Dieu n'est pas comme ça. Même avec les sacrifices de l'Ancien Testament, Dieu n'était pas imprévisible. Il avait mis ça. Puis c'était en attendant le sacrifice ultime. Amen. Maintenant, voici où je vais amener ça comme application. Alors qu'on s'apprend à prendre le repas du Seigneur, notre frère a lu la version éphésienne de ce que je vais vous lire en version colossienne. Vous savez que c'est les épîtres jumelles. Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont en parallèle. Mais je vous lis dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ça, c'est l'œuvre de sanctification de Dieu à l'image du sacrifice de Christ. Christ, notre Pâque, dans la sanctification de l'Église, à cause de ce que Christ a fait, en réponse, en vertu de ce qu'il a fait, on a ces bénéfices-là. Pourquoi je peux pardonner quelqu'un même quand il m'a vraiment offensé? Parce que moi, j'ai été pardonné quand j'ai offensé vraiment beaucoup Dieu. Et parce que j'ai connu la grâce, je peux maintenant étendre cette grâce à quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est un excellent passage pour terminer avec cette idée que Christ, notre Pâque et notre sanctification dans l'Église. Parce que le repas du Seigneur, ça nous rappelle ça. N'est-ce pas un temps à travers toute l'année où est-ce qu'on se rappelle de Christ, notre Pâque? Parce que Christ, notre Pâque, c'est Christ qui est mort, lui juste pour les injustes, qui s'est donné en sacrifice parfait. Et c'est ça qui nous unit. Vous dites, il y a tellement de parallèles. C'est le Saint-Esprit, là. Mais qu'est-ce qu'il disait ce matin? Qu'est-ce qui nous unit? On est donc des bonnes personnes, d'autres ici. Nous, ici, on est les fins. Les autres, là-bas, c'est les méchants. C'est ça qui nous unit? Non, ça ne marcherait pas très longtemps. Been there, done that, puis ça ne marche pas. Non, ce qui nous unit, c'est Christ et son œuvre. On est tous des impurs. Mais quand on connaît Christ, on a été purifiés. C'est ça qui nous unit. Et en tant qu'Église, on célèbre cette œuvre de Christ qui, de plusieurs, n'en a fait qu'un. Et je dirais, il y a un aspect, hein, ça dit, examinez-vous vous-même lors du repas du Seigneur. Quand ça dit, pardonnez-vous, De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Puis je veux faire écho à ce qui a été dit ce matin. Est-ce que, à un moment donné, la personne a passé le point de non-retour? Non, il n'y a rien à faire avec cette personne-là. Non, là, il m'a trop fait du mal, ou il n'y a plus rien à faire avec cette personne-là. Est-ce que j'ai abandonné, ou est-ce que, pour reprendre les paroles de Romains 5, verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Qu'est-ce qui règne dans ma vie? Est-ce que la grâce règne? Et la grâce, c'est pas la licence de faire n'importe quoi puis n'importe comment. La grâce, c'est de voir que Dieu est plus grand que tout ce qui peut arriver, que tout problème, que toute situation, que la grâce de Dieu, là où il y a du péché, elle surabonde, elle est plus forte, c'est la force supérieure. Puis dans ma vie aussi, si vous avez essayé de vaincre le péché, puis vous avez échoué lamentablement d'en être humilié, et je pense qu'on a tous eu ça à différentes façons, à différentes époques, avec différents péchés. Voici quelque chose qui est simple, mais significatif. Vous savez qu'on n'est pas appelé à se battre contre la loi de la gravité. Avouez que ça serait fatigant. Ah là, moi, je suis tanné là, d'avoir les deux pieds sur terre. J'aimerais ça irait bien plus vite si je pouvais. Savez-vous, moi, j'ai déjà fait des rêves, là, parce que peut-être que j'ai beaucoup longé dans ma vie. Là, je m'imagine, là, je serais dans un rêve, là, je me donne un swing de même, puis là, je peux comme voler dans les arbres, même en nageant. C'est bizarre, là. C'est un rêve, c'est bizarre, des rêves. Puis là, des fois, quand il y a un méchant, des fois, je sais, puis là, je suis pas au plafond, puis il me pogne par le pied. Ah, ça m'énerve, là! Je sais pas ce que ça veut dire, vous ferez une analyse, là, whatever, là. Mais, tu sais, l'idée, dans un rêve, ça marche peut-être, là, mais n'essayez pas ceci à la maison, les enfants. Parce que vous allez, ben, je vais déjà aussi compter mon épisode de Superman à l'Halloween. J'ai été Superman à Halloween, puis j'étais chez mon grand-père, ma grand-mère, je sautais du divan, puis moi, dans ma tête, là, j'allais vraiment loin, là, j'étais sûr, là, tu sais, j'étais bien sincère, mais c'est quoi, ça fait tout, ça fait ça de même. Puis mon oncle, ma tante, en moi, elle entendait bang, bang, bang. C'est ça qui faisait Superman là, chez grand-père et grand-mère. Pour vous dire, c'est pas très impressionnant. Je n'ai pas impressionné personne. Pourquoi? Parce que la gravité me rattrapait. Mais vous savez qu'il y a un moyen de vaincre la gravité? Aller dans un avion. La loi du péché m'attire toujours vers le bas. Puis si j'essaie de la battre demain, je vais prendre mon élan, je vais être sincère, je vais faire mon Superman contre le péché. Puis boum, je vais retomber, puis je vais retomber. Mais quand je rentre dans l'avion, en Jésus-Christ, en lui, là, il y a une loi supérieure, la loi de l'aérodynamique, qui fait en sorte que l'avion défie la loi de la gravité et elle s'envole. Parce qu'un avion passant, là, c'est vraiment lourd, là. C'est pas supposé de voler, là.
C'est ça.
Mais c'est la shape qu'elle a, puis bon, la loi de l'aérodynamique fait en sorte qu'elle vole. Et c'est la même chose. La loi du péché puis de la mort me rend esclave, m'attire toujours vers le bas. Et on n'est pas appelé à essayer de la combattre. On est appelé à se confier, se placer en Christ. Et en lui, sa loi, elle m'affranchit. Elle me rend libre, elle me libère. Et savez-vous quoi? Le repas du Seigneur, c'est la célébration de tout ça. Nous, esclaves, nous avons été libérés et nous sommes libres d'aimer maintenant, de ne pas s'aimer nous-mêmes, pis t'sais, mais d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on peut dire comme dans 1 Pierre, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et je crois que quand on se rappelle le repas du Seigneur, on se rappelle à quel point on a été grandement pardonné. Ça nous aide après ça à voir, ouais, finalement, c'est-tu quoi ce que l'autre a fait? Oui, OK, ça m'a blessé, ça m'a vraiment fait du mal. Mais je pense que je peux pardonner à la lumière de ce que j'ai été pardonné en Jésus-Christ. C'est bon, le repas du Seigneur, ça nous ramène à l'essentiel. Ça nous ramène au sacrifice fait une fois pour toutes. Et ça nous ramène à cette œuvre de sanctification qui est faite par Christ dans son Église, pour son Église. Merci, Seigneur, pour ces vérités. Qu'on puisse méditer sur ces choses précieuses qui ont trait à à la volonté divine qui est venue pallier, régler le problème du péché, qui est venue régler cette imperfection, ces choses toujours à recommencer. Christ, une fois pour toutes, est mort, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part. Qu'on vive à la lumière de cette œuvre. Seigneur, merci qu'on peut prendre ce temps avec le repas du Seigneur pour nous rappeler cette œuvre, la remettre devant nos yeux. Oh, cette croix, elle nous est toujours chère. Elle est gloire et victoire pour nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.